Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes en partenariat avec Amadeus Piano. Une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue et merci d'être encore fidèle au rendez-vous de Mélomanie, le magazine dédié à l'actualité de la musique classique et lyrique toulousaine et régionale. Au programme de cette émission, un retour sur les événements musicaux de la semaine passée et un agenda des concerts de la semaine à venir, le tout illustré d'extraits des œuvres que nous allons évoquer entre mélomaniacs tout au long de ce numéro. Et les mélomaniacs convoqués aujourd'hui dans ce studio ont pour nom Serge Krichewski, oboïste de l'Orchestre National du Capitole, directeur de l'Orchestre en Harmonie et membre fondateur des Clés de Saint-Pierre, Robert Pénavert, cofondateur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi, à leur côté Hubert Stocklin, contributeur du site classicnews.com, également chroniqueur pour Culture 31. Nous avons aussi le plaisir et l'honneur de recevoir Yves Rechsteiner, directeur artistique du festival Toulouse Les Orgues et grand organiste s'il en est. Merci pour votre présence et bienvenue à vous quatre. Sans plus attendre, c'est à l'actualité de la semaine écoulée que nous allons maintenant nous intéresser pour la première partie de cette émission.
Mélomanie. Retour arrière.
Et l'événement qui domine l'actualité des derniers jours, mais aussi des jours prochains, puisqu'il reste une représentation dimanche à 15h, c'est Iffland, l'opéra d'Eugen d'Albert. Nous l'avons largement évoqué lors des derniers numéros de Mélomanie, mais nous n'avions pas encore eu l'occasion d'en parler après avoir vu la production actuellement donnée au Théâtre du Capitole. C'est chose faite, tous les mélomaniacs présents dans ce studio ont assisté à une représentation de Iffland. Alors, chers camarades, c'est le moment de confronter nos impressions et nos sentiments. Qui veut s'y coller en premier? Robert Pénavert, allez, je sens que vous bouillez d'impatience.
Oui, oui. Alors, d'abord, dire que ça valait le coup d'attendre plus de 100 ans, hein, mais parce que c'est un plateau absolument extraordinaire qui a été servi pour l'intro au répertoire du Théâtre Capitole de cette œuvre-là, qui a été créée en 1903. Et vraiment, c'est un plateau, je pense, que peuvent nous envier les plus grandes scènes de la planète. Bon, il faut dire que Eugène d'Albert a quand même particulièrement soigné les trois rôles principaux, qui sont des rôles extrêmement délicats, très difficiles à chanter, avec quand même temps un héroïsme quasi wagnérien à certains moments, un phrasé quasi puccinien à d'autres moments. Voilà, donc c'est très très difficile. En plus, ce sont des personnages de chair, de sang, qui doivent vraiment représenter quelque chose sur scène, et il faut qu'ils nous le fassent vivre, parce que c'est un drame naturaliste et extrêmement poignant, dramatique bien sûr, complètement moral, faut le dire, mais bon, il se finit comme ça. Et donc, le Théâtre du Capitole, de longue date, hein, avait réservé un trio de chanteurs qui, pour la première fois, interprétaient ces rôles sur une scène. À noter que, effectivement, ces chanteurs, pour avoir discuté un peu avec eux, m'ont dit, bon, non, on n'aurait jamais osé aborder de pareils rôles ailleurs, mais au Capitole, on nous donne les moyens, on nous donne le temps, ils sont là depuis la mi-août quasiment, pour travailler à cette chose-là, on a des chefs de chant, on a tout ce qu'il faut, et c'est merveilleux.
Alors, ils sont vraiment très encadrés.
Très, très soutenus, ils sont chez eux, ils sont bien, ils aiment bien notre ville, pour ceux qui la connaissaient déjà. Et parmi ceux qui la connaissaient déjà, il y a Nikolai Chokhov, qui est un ténor autrichien qu'on a déjà vu ici, et en particulier dans le Jim Mahoney de la création à Toulouse de Grandeur et décadence de Mahagoni. Bon, on l'a entendu après, plus tard, une fois. Mais là, c'est lui qui joue Pedro, puisque donc, je rappelle que, bien que ce soit chanté en allemand, c'est un drame qui se passe dans les Pyrénées catalanes. Et donc, voilà, le héros, le ténor, s'appelle Pedro. Et en fait, bon, on l'avait dit la dernière fois, c'est un peu l'innocence. Un village qui descend dans la vallée et de qui tout le monde va se moquer, mais qui va se révéler être un homme très fort, un homme très courageux, très sain d'esprit et qui va faire triompher la vérité, sa vérité à lui. Et Nikolai Chokhov, dont le rôle signature n'est rien moins que Parsifal quand même, dont vous voyez un peu le genre de vocalité qu'il faut, et aborde ce rôle avec une franchise, avec un héroïsme, une vaillance, mais aussi beaucoup de musique. Et vraiment, en plus, en dégageant une émotion, mais absolument extraordinaire. Il ferait pleurer des pierres, Nikolai Chokhov. Mais en même temps, on est très tranquille quand on l'écoute, parce que malgré tous les écueils qui sont dans cette partition, ben, il franchit tout ça, mais avec une vaillance, une sûreté, un cran, mais absolument incroyable. À côté de lui, sa bien-aimée Martha, un rôle aussi très délicat à chanter. Bon, c'est une chanteuse wagnérienne, tout le monde le sait, et elle chante ça avec cette autorité, cette...
On parlait de Meghan Miller.
Meghan Miller, la chanteuse, hein. Tout à fait, effectivement, c'est une américaine, et elle fait ça, elle aussi, pour la première fois. Et elle le fait avec, je le disais, beaucoup de sensibilité. Elle campe un très très beau personnage qui n'est pas facile hein, à interpréter dramatiquement. Ensuite, pour le troisième personnage, c'est un baryton. Moi, je ne sais pas si vous êtes les amis d'accord là-dessus, mais il me semble que la vocalité, pour moi, c'est la vocalité requise par Wagner dans Alberic. C'est-à-dire un baryton très incisif, très noir, très percutant.
Scarpia aussi.
Scarpia pour Puccini.
Dans lui, oui.
Voilà. Et donc, et c'est Marcus Bruck qui chante lui aussi pour la première fois. Alors lui, il a, bon, on l'a dit, je crois déjà sur cette antenne, à son répertoire, il y a tous les grands rôles wagnériens, pucciniens effectivement, verdiens également, mozartiens, n'oublions pas. Bon, c'est le grand, alors il ne faut pas que ce soit pris de manière péjorative, mais c'est le grand troupier. C'est un baryton qui a une technique vocale extraordinaire et qui peut chanter avec beaucoup de bonheur tous ces rôles-là. Mais je vous laisse quand même.
Alors, je vais aller maintenant d'Hubert Stocklin. Nous étions d'ailleurs le même soir, mardi dernier, à la représentation de Tiflande.
Alors, moi, c'est très rare quand je ne connais pas un opéra. Donc, je suis ravi. J'y vais avec mon côté bon public. Je lis rien avant. Je savais un peu que, par exemple, Callas avait chanté, enfin, dans les années à Athènes, le rôle de Martha. Donc, je me disais, ça ne doit pas être de la tarte. Ça doit être pas mal. J'adore Nicolas Choukov, que j'avais trouvé extraordinaire, que je rêve un jour d'entendre au Capitole dans Siegfried ou dans Siegmund. J'ose même pas penser à Tristan, mais ça serait vraiment une bonne idée aussi. Donc je me suis dit, ça va être génial. Alors j'avais un problème avec la musique d'Albert que je ne connaissais pas, et j'ai été un petit peu étonné par sa capacité pendant le premier acte à nous plomber, c'est-à-dire c'est un orchestre plombant qui fait sentir quelque chose d'une douleur. C'est riche, c'est une patte extraordinaire, et les voix donc, qui sont des voix, comme l'a dit Robert, d'une grande puissance. Un chef, Klaus-Peter Flohr, qui joue le jeu, c'est-à-dire l'orchestre est très fort, les voix sont très fortes, on en prend plein les oreilles, on se dit mais quel malaise nous prend, cette histoire est sordide, c'est épouvantable. Et alors le deuxième acte, c'est flamboyant, ça décolle, les voix se libèrent et on a la fête que j'attendais, c'est-à-dire un opéra que je ne connaissais pas, une histoire très intéressante, psychologiquement ça tient la route, ces femmes battues qui demandent à être tuées par l'homme qu'elles aiment, bon hélas ça existe, et la scène justement du baryton qui veut détruire la soprano devant les yeux du ténor, ça me fait vraiment penser en miroir à la scène de Scarpia qui fait la même chose pour Tosca, ou dans Lady Macbeth de Mnens quand il y a l'amant de Lady qui est battu. Et je trouve que c'est une très très grande découverte parce qu'il y a de grandes voix. Il n'y a pas des grands airs, mais il y a des choses extraordinaires au niveau vocal, des aigus flamboyants, enfin c'est magnifique. Et une histoire qui tient la route, en plus. Alors, le seul reproche que j'ai à faire, c'est que c'est en allemand. Parce que les Pyrénées catalanes en allemand, ça passe difficilement. Non. Voilà, non mais c'est une blague. Hein, parce que c'est très... Les chanteurs sont sensationnels, Choukov. Oui. Il y a le texte aussi. Choukov fait extraordinairement attention au texte, parce qu'il y a beaucoup de textes.
Oui. Je trouve qu'il y a de l'épaisseur dans tout, moi, je trouve. Hein, aussi bien dans le livret, les personnages et l'interprétation. Ouais. Juste Serge Krichevski.
Alors, dans l'orchestre,
évidemment,
qu'est-ce qu'il est ?
Vous êtes dos à la scène, mais vous entendez les voix, quand même. Bon, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors jouer dans une fosse, ça ressemble toujours un peu au mythe de la caverne, hein, c'est-à-dire qu'on imagine beaucoup de choses, on a des choses qui se passent au-dessus de nous et on pressent plus ou moins d'émotions, et là on en ressent beaucoup, et je dois dire qu'il y a certainement très très peu, en tout cas dans mes collègues musiciens, mais dans tous les gens qui ont vu Tiflande, de gens qui ont été vraiment déçus ou qui ont des sensations insatisfaisantes ou bon. Comme parfois au cinéma, on parle d'une ville, d'un lieu qui devient un personnage, le personnage principal. Là, effectivement, des gens comme Michel Lehmann en ont bien parlé. La dimension catalane de cette histoire n'est pas énormément définie, ni dans la musique, ni dans l'histoire.
Ni même dans les décors. Mais ça,
voilà,
après.
Justement. C'est pour ça que j'aurais tendance à dire que là, on peut dire que le quatrième personnage, à moins que ce ne soit le premier, on peut dire que c'est l'orchestre. Hein. C'est-à-dire que Eugen d'Albert va encore au-delà de Wagner, qui est le premier à donner une place, notamment à partir de la deuxième journée de la tétralogie, une place extrêmement grande à l'orchestre, qui dialogue avec les personnages. Et effectivement, comme disait Hubert, il n'y a pas de grands airs. C'est peut-être la chose qui laisse un peu sur leur faim les gens qui sont plus proches de Verdi ou de Puccini. Mais en revanche, il y a beaucoup de moments qui mettent en valeur les voix. Et dramatiquement, les chanteurs qui sont très très engagés physiquement, vocalement, dans cette production, ont la possibilité de faire valoir leur talent dramaturgique à travers ce texte qui est très prolixe, enfin qui est très...
Mais qui est touffu.
Oui, c'est touffu. Orchestralement, le verbe est fort.
Il y a de la matière, indiscutablement.
Il y a beaucoup de récits aussi.
Absolument. Je voulais revenir quand même sur, on n'en a pas parlé, les décors et la mise en scène. C'est là que j'ai quelques petites réserves. Je ne sais pas comment vous avez trouvé. Bon, effectivement, au début, on découvre un décor très minéral. On a l'impression qu'on est sur une espèce de piton rocheux.
Oui, mais justement, on évite l'écueil de dire il y a quelque chose d'idyllique dans la montagne,
de pastoral,
d'idyllique en haut et de monstrueux en bas. En fait, c'est pas si extraordinaire en haut non plus. La montagne, et c'est vrai que les Pyrénées sont pas si agréables en termes de boisement et
c'est haut.
Ça dépend quand c'est haut, je veux dire, pour y planter sa tente et y passer 3 ans comme il l'a fait, c'est pas confortable. Voilà, donc il n'est pas dans un endroit confortable des Pyrénées, on va dire ça comme ça.
Oui,
il
y en aura quand même des endroits. On n'entend pas les cloches, les moutons, voilà, les vaches, tout ça. On n'est pas dans quelque chose de pastoral, c'est vrai.
Donc on est d'emblée pas dans une espèce d'opposition d'un idéal à la monstruosité du bas. Et le bas, bah, c'est un fond d'usine. Et un fond d'usine, ça représente bien le fond de la vie humaine que représente ce patron. C'est le fond de la vie humaine, vraiment. Il n'y a rien pour lui, quoi, parce que sa division de l'amour, c'est la possession, oui,
parce
le rabaissement.
Les personnages sont assez archétypaux, quand même. Hein. C'est très marqué.
Tellement vrai psychologiquement, pas du tout excessif. Je regrette, parce que j'ai étudié la folie à l'opéra, je regrette de ne pas avoir connu cet opéra, parce qu'il y aurait moyen des choses à dire.
Oui, Robert, un mot à dire sur ces décors, cette mise en scène.
La lumière était très intéressante.
Voilà, alors je pense qu'il y a quelque chose qui est assez astucieux, c'est la manière dont on passe du sommet de la montagne dans le moulin. Ça, c'est assez malin. Bon, ça, mis à part cet aspect complètement minéral, là on ne voit pas très bien où les brebis, ou les vaches de Pedro peuvent...
D'autant plus que c'est chanté en allemand, alors ça renforce le côté, on se croirait presque dans les Alpes autrichiennes.
Je trouve ça un peu cheap, mais peut-être qu'il y avait moyen de faire autre chose, mais bon, peu importe. Ensuite, c'est vrai que le côté usine, le côté en bas dans le moulin avec ses volets d'escalier, plus ce salon un peu misérable. Et bon, voilà. Mais en fait, c'est certain aussi, il ne faut pas oublier que Sebastiano, le baryton, est en faillite, littéralement. Donc, il n'a pas d'argent, ça ne peut pas être luxueux. Mais la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que le personnage des trois commères... Ouais. Est-ce que ça vous fait pas penser à des répliques que l'on a dans, enfin des répliques non puisque c'était fait avant, mais des répliques des Filles du Rhin ou alors des trois Nyx dans Rusalka.
Il y a beaucoup de clins d'œil à Wagner.
Je pense qu'il y a des références.
Il y a des références à Wagner, même au niveau des rapports à la forêt. C'est très étonnant. Moi, je trouve qu'il y a, c'est l'autre dimension peut-être. Je trouve qu'il y a des clins d'œil, des leitmotifs qui n'en sont pas vraiment. Enfin, il me semble, mais il faut que je réécoute, parce que comme je l'ai dit, je ne le connaissais pas. Les leitmotifs, ce n'est pas exactement cité pareil, c'est juste des idées de leitmotifs. Et il y a un peu de citations, je vais essayer de les repérer, des citations d'opéra de Wagner. Les trois filles du Rhin, je suis d'accord. Il y a un rapport à... Je ne sais pas s'il parle du corps. Enfin, je ne sais pas. Il y a des trucs étonnants.
Ça montre aussi la richesse de cette œuvre, finalement. Et donc, oui, ça vaut le coup d'y aller le voir plusieurs fois, en tout cas d'aller le voir une première fois pour ceux qui ne l'ont pas encore vu.
Simplement, j'ai trouvé la basse Scott Wilde qui chante Tommaso. Absolument extraordinaire.
Oui, d'ailleurs, il fallait en parler aussi. On a parlé des trois premiers rôles, mais tous les seconds rôles sont magnifiques et formidablement bien
interprétés. Et le rôle de Letty, le patriarche qui a cautionné ce mariage arrangé et puis qui se retourne et qui se fait clouer le bec d'abord et puis qui finalement va faire tout ce qu'il faut sans violence. On dit, écoute, j'ai parlé, j'ai juste dit. Et ça arrête. Ça montre aussi une des vraies choses de la vie, c'est que la parole peut arrêter la monstruosité quand on l'a dit.
Il est déjà venu à Toulouse, Scott Wilde, mais dans des rôles
beaucoup moins importants,
relativement secondaires. Fender, oui, voilà.
Ah là, il prend place.
Ça a pu donner toute cette dimension, vraiment.
Et alors, les escaliers, justement, il y a une habileté dans le jeu par rapport aux escaliers. Il y en a un qui monte d'un côté, l'autre qui l'empêche par l'autre côté. C'est très habile, parce qu'au début, je trouvais ça un peu moche, disant les choses, c'est double escalier. Mais en fait, non, c'est très malin.
La mise en scène, c'est pas très joli,
la mise en scène, je trouvais très intelligente, parce que c'est très crédible. Bon, on a aussi des chanteurs-acteurs qui sont beaux physiquement et qui jouent très bien.
C'est pas seulement des chanteurs, ce sont des interprètes. Ce sont
vraiment pas le ténor bedonnant.
C'est pas le ténor traditionnel.
Ah non. Mais c'est un vrai, au niveau de la voix et de la projection directe de la voix, c'est un vrai wagnérien.
Bon, je pense que nos auditeurs auront compris cette discussion animée que c'est un spectacle qu'il faut absolument aller découvrir. On referme le chapitre Tiefland. Dans l'actualité récente aussi, lundi dernier, il y a eu à Saint-Pierre-des-Cuisines le premier concert de la saison des Clés de Saint-Pierre. Pour ce premier rendez-vous, 8 musiciens de l'Orchestre National du Capitole nous ont proposé un rare programme d'octoire, en jouant d'abord l'octoire en si bémol majeur de Max Bruch, puis l'octoire opus 20 de Félix Mendelssohn, le second étant beaucoup plus connu que le premier, et là je parle autant des œuvres que des compositeurs. Encore une belle soirée offerte par les Clés de Saint-Pierre et ses musiciens. Robert Pénavert, Serge Krichewski, vous avez assisté comme moi à ce concert. Avez-vous été aussi emballé que je l'étais parce que nous avons entendu lundi? Allez-y, pas de politesse.
Le collègue, qu'est-ce qu'il va dire, le collègue?
Non, mais c'est très délicat. C'est vrai que nous sommes très heureux de pouvoir présenter cette série au public toulousain. Il y a peu, il faut dire, de musique de chambre présentée très régulièrement dans un cadre. On a la chance de jouer dans un cadre aussi beau que Saint-Pierre-des-Cuisines. Cette soirée s'est particulièrement bien passée comme ouverture de la 18e saison, au cours de laquelle il y aura des choses singulières, des choses du grand répertoire aussi. Mais bon, cette octuore de Mendelssohn, c'est un tel plaisir. Là, vraiment, les musiciens, malgré tout l'environnement de concert à l'orchestre à préparer, plusieurs d'entre eux sont aussi dans Tiefland, certains aussi dans les concerts symphoniques de la Halle au Grain, ont réussi à préparer vraiment de façon très très engagée ce programme. Il y avait une connivence qui m'a semblé une beauté sonore et une homogénéité sonore. Voilà, je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que ce sont mes collègues. Et en même temps, franchement, je pense que toute la salle a très très bien perçu tout ça.
C'est ce qui m'a semblé. Alors vous, Robert Pénavert, qui était présent également.
Oui, tout à fait. Mais la magie opère encore une fois dans ce programme des Clés de Saint-Pierre. Bon, le Mendelssohn, Serge, je le connaissais. Le Bruch, non, je l'avais jamais entendu, je le reconnais. Et ce qui opère aussi, c'est qu'on y va, c'est effectivement qu'il y a entre tous ces jeunes musiciens. Parce qu'un certain nombre sont autour de la trentaine à peine.
Absolument. Ah
oui, voilà. Il y en a qui n'ont même pas 25 ans.
Oui, il y a une moyenne d'âge de 30 ans dans un groupe de 8. Voilà. C'est une énergie qui se dégage.
Il y a une énergie telle qu'à un moment, on avait l'impression d'avoir un orchestre symphonique devant nous. Oui. C'était absolument extraordinaire. Bon, une découverte. Et puis, je voudrais en profiter, j'ai le micro, pour saluer José Simonetta, qui était là, présente, et qui a été pendant longtemps, et qui continue, je crois, d'être l'âme de ce...
Elle a été longtemps la présidente de Clé de Saint-Pierre.
De cette saison.
C'est notre Suissesse aussi, une grande dame.
Valaisanne.
Oui.
Comme Yves Reichsteiner, c'est pour ça qu'on en parle.
Oui, qui a été une dame qui représentait longtemps la musique de chambre avec le quatuor du Capitole à Toulouse.
Voilà. Oui, moi aussi j'ai été frappé par l'osmose entre tous ces musiciens, sachant qu'ils sont très pris en ce moment, ou dans Tiefland, certains avaient joué la veille, il y en avait 5 sur les 8 je crois qui avaient joué la veille, et qui rejouaient le lendemain. Et puis il y en a d'autres qui préparent le concert de l'Orchestre du Capitole, les concerts du jeudi, vendredi, samedi de cette semaine. Bon écoutez, on va se faire un petit plaisir, et je vous propose qu'on écoute encore un extrait de ce magnifique octoire opus de Félix Mendelssohn, le troisième mouvement, le Scherzo. Je pense que tout le monde connaît cette œuvre, l'a entendu au moins une fois, sans savoir que ben voilà, c'est un extrait de l'octoire opus 1 de Félix Mendelssohn. Thank you. Le célèbre Scherzo, troisième mouvement de l'Octoire opus 20 de Félix Mendelssohn, une des deux œuvres jouées lundi dernier par les musiciens des Clés de Saint-Pierre lors du premier concert de la saison. Vous pouvez d'ores et déjà noter que le prochain rendez-vous est prévu le lundi 20 novembre à 20h, avec une autre rareté, un programme de quatuor pour clarinette. Pour conclure cette première partie d'émission, nous allons jeter un dernier regard sur le festival Piano Jacobin qui s'est terminé vendredi dernier avec le concert de Nicolas Angelisch. Hubert Stocklin, vous y étiez et vous teniez à nous dire quelques mots sur la prestation du pianiste américain qui, semble-t-il, vous a régalé ce soir-là.
Ah oui, ben c'était les sommets, même qu'il y avait les sommets de Tiflande avec la montagne. On a eu un sommet, je vais juste dire que c'est un sommet à la fois de puissance pianistique et de rigueur dans le jeu et d'émotion. C'est vraiment un géant qui fait naître une émotion par la maîtrise qu'il a, toujours au service de la musique qu'il joue. Ça met un peu, je trouve, à plat certains pianistes qui font du beau piano en se servant des compositeurs. Donc moi, je suis toujours à la recherche de cette émotion vraie, et là, j'étais plus que gâté. Donc si vous voulez, c'était la parenthèse, il y avait Leonskaya pour ouvrir, Angelisch pour fermer, c'était des sommets de musicalité. Alors du côté d'Angelisch, avec des doigts beaucoup plus puissants, on va dire, et plus sûrs.
En plus,
mais avec l'émotion...
Un programme très varié, très parce que j'ai aussi vu, il a joué Bach, Buzzoni, ouais. Beethoven, Brahms, Prokofiev.
Alors Prokofiev, que je connaissais peu, parce que je dois dire les choses, hein, des choses qui sont difficiles à écouter chez soi, tranquillement, une sonate de Prokofiev, ça ne s'écoute pas comme ça. Alors il en a fait quelque chose d'extraordinaire. Et alors la folie du final, prestissimo, on se demandait comment il pouvait aller si vite.
Voilà. Eh bien, nous allons terminer cette première partie d'émission là-dessus. La seconde va être largement consacrée au grand événement du week-end et de la semaine à venir, le Festival Toulouse des Orgues, dont le concert d'ouverture a eu lieu ce midi à Saint-Sernin. Son directeur artistique, Yves Rechsteiner, est avec nous dans ce studio et nous allons pouvoir parler avec lui des œuvres et des musiciens programmés au cours de cette 22e édition sous-titrée « L'Orgue rend-il fou ?» Quelle drôle de question. Nous allons aussi évoquer avec lui le 12e concours Xavier Darras. Restez bien avec nous. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
Vous recherchez un clavier numérique ou un piano acoustique ? Amadeus Piano propose les plus grandes marques au meilleur prix. Amadeus Piano est aussi la clé de vos concerts et de vos événements. Du piano droit haut de gamme au piano à queue de concert, nous mettons tout en œuvre pour vous fournir une prestation de haute qualité. Avec Amadeus Piano, la référence du service et du transport de piano à Toulouse et dans la région, bénéficiez du savoir-faire de Robert Burali, facteur de piano diplômé et accordeur du Conservatoire et de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Retrouvez tous nos produits et services sur amadeuspiano.fr. Amadeus Piano vous souhaite de passer un agréable moment avec Mélomanie.
La suite est la seconde partie de Mélomanie avec les invités de ce numéro. Serge Krichewski, oboïste de l'Orchestre National du Capitole, directeur de l'Orchestre en Harmonie, membre fondateur des Clés de Saint-Pierre. Robert Pénavert, cofondateur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour Culture 31, Côté Toulouse et La Voix du Midi. Hubert Stocklin, contributeur du site classicnews.com, chroniqueur pour Culture 31. Sans oublier bien sûr notre invité du jour, Yves Rechsteiner, directeur artistique du festival Toulouse des Orgues.
Mélomanie. L'agenda.
Et dans l'agenda de cette semaine, donc, le festival Toulouse des Orgues qui occupe beaucoup l'espace. Le concert d'ouverture a eu lieu jeudi à Saint-Sernin avec Michel Bouvard qui jouait à cette occasion sur l'orgue de la Basilique pour la première fois depuis son relevage, c'est-à-dire son nettoyage. Il y avait aussi au programme le magnifique Requiem de Duruflé. Nous en avions parlé lors du dernier numéro de Mélomanie. Le festival se poursuit jusqu'au 15 octobre. Nous allons bien sûr évoquer la programmation avec vous, Yves Rechsteiner. Mais avant cela, ce sous-titre du festival 2017, l'orgue rend-il fou ? Interpelle un peu tout de même. Est-ce que c'est votre expérience personnelle d'organiste qui s'exprime à travers cette question ?
Alors non. Non, mais cela dit, c'est un monde que je connais évidemment, puisque c'est quand même le mien. Et en fait, cette question qui évidemment intrigue beaucoup, elle fait référence à l'image qu'a l'orgue un tout petit peu aujourd'hui dans l'imaginaire collectif. Nous avons évoqué hors antenne toutes sortes de références cinématographiques, le capitaine Nemo, les Gremlins, où systématiquement les personnages les plus bizarres sont associés à une musique d'orgue. Donc il faut bien avouer qu'aujourd'hui, pour beaucoup de nos contemporains, l'orgue est associé quelquefois à des lieux un peu sombres, à un instrument un peu trop grand, trop puissant, un musicien trop solitaire. Il semble déjà être un peu à la marge des musiciens lui-même. Donc c'est un petit peu tous ces aspects-là que j'ai voulu aller à la fois explorer, creuser, démentir quelquefois, puisque dans cette programmation, il y aura presque des concerts que j'appelle des concerts d'anti-folie, des concerts qui guérissent.
Qui apaisent.
Voilà, exactement. Donc, mais ça restait une thématique avec un minimum de second degré dans sa formulation et avec évidemment plein de pistes musicales à explorer.
L'orgue en tilfou, ça peut s'adresser autant à celui qui en joue qu'à celui qui l'écoute.
Oui, et peut-être quelques personnes qui écoutent trop d'orgue, j'en conviens.
Alors, comment cette folie est-elle intégrée dans la programmation de cette 22e édition ?
Alors, comme toutes les thématiques, elle n'est pas intégrée à chaque minute de chaque programme, de chaque concert, mais il y a... mais il y a évidemment quelques concerts qui se dégagent. C'est comme ça pour toute thématique, je pense pour tout festival d'ailleurs. Alors, sans passer toute la programmation au peigne fin, je vais saisir comme ça quelques moments. L'ensemble Curious Bards qui va jouer à Saint-Pierre-des-Cuisines samedi 7 à 20h30. Le titre du concert, c'est Mad Songs. Donc là, on est sur...
Je traduis chanson folle, pour ceux qui n'auraient pas fait la traduction.
C'est un titre de Purcell, ça.
Exactement, oui, puisqu'en en fait, c'est devenu presque un genre en soi, à partir de certains airs de Purcell, qui sont en gros des airs de déploration, c'est-à-dire une forme de désespoir amoureux qui conduit à la folie. Ouais, on est vraiment dans ce lien, l'amour désespéré conduit à une forme de perte de la raison, et c'est devenu vraiment une mode à l'époque de Purcell, donc il y a eu plein de chansons écrites avec ce type de texte. Donc Curious Bards, qui est un ensemble, je le précise, parce que c'est un ensemble intéressant, ils travaillent à la fois sur instruments anciens et ils font aussi de la musique traditionnelle en ayant été formés par des musiciens traditionnels écossais, irlandais. Et ils feront à Saint-Pierre-des-Cuisines un double programme, moitié baroque Purcell et moitié avec des airs et des chansons irlandais. Et c'est un ensemble qui connaît un succès fulgurant ces jours. Ils viennent de sortir un disque qui est aujourd'hui dans les 6 meilleures ventes à l'échelle nationale. Et c'est un ensemble très jeune. Les musiciens, ils sont sortis du CNSM de Lyon où j'enseigne depuis même pas 4 ans. Donc ils explosent, ils sont formidables, je les aime beaucoup. Voilà, Mad Songs, c'est samedi soir. Ça a d'ailleurs toute une thématique baroque sur ce premier week-end du festival, puisque les frères Guilmi, Lorenzo Guilmi au clavecin et Vittorio Guilmi à la viole de gambe vont s'intéresser au personnage de Forqueray, qui était un de ces virtuoses du XVIIIe siècle, parce que finalement, ce n'est pas Paganini qui a eu le privilège d'être un virtuose à son instrument, mais ça existait déjà avant, et Forqueray faisait parler de lui. Il avait un jeu excessif, on disait qu'il était un peu lunatique, donc il y avait ce côté déjà un peu de brin de folie dans cet homme-là.
Autre rendez-vous peut-être, est-ce qu'il y en a quelques-uns que vous souhaitez mettre en avant ?
Alors, j'avais choisi en fait dans le milieu de la semaine un compositeur qui n'est pas très très connu finalement en France, c'est Max Reger. Alors Max Reger, c'est évidemment l'organiste typique, un compositeur qui a beaucoup écrit pour orgue. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a été très respecté par des gens comme Stravinsky, ce qui montre que, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'au 19e, 20e siècle, les grands compositeurs ne sont plus forcément des organistes, comme l'était Bach, Couperin, tout ça. Mais malgré tout, il y a encore évidemment des connexions fortes. Et Max Reger, qui a donc laissé une œuvre d'orgue abondante, est quelqu'un d'un peu excessif. Moi, je trouve que, voilà, il y a un peu les excès chez Reger qu'on trouve chez Wagner, avec donc du coup un public également. Il y a des gens qui adorent Max Reger et il y a des gens qui détestent. Les organistes français, globalement, trouvent que
c'est trop.
Il y a trop de notes. Vous regardez la partition, vous avez l'impression qu'il y a une tache d'encre un petit peu qui a essaimé sur la feuille. Mais en même temps, au-delà de l'anecdote, ça reste un compositeur qui a un langage assez intéressant. Fin 19e, début 20e, et c'est quelqu'un qui explore quand même l'orgue en maître de la chose. Il était organiste, donc il y a vraiment une maîtrise parfaite de l'outil sonore. Et Max Reger est un peu un fil rouge de la journée du mercredi, puisqu'il fait partie du programme du concert de 12h30, de 18h30, avec un point culminant avec le récital de Jean-Baptiste Dupont à 20h30. Alors, c'est pas une musique folle, c'est une musique que je qualifierais d'excessive, si tant est que les deux puissent être reliés. Et puis, si je vais un tout petit peu plus loin dans la programmation, alors on me pardonnera évidemment tous les oublis volontaires pour être synthétique.
Mais il y a le programme pour ça, les jurons iront fouiller le programme pour regarder dans le détail, bien sûr.
Exactement. Mais je parle toujours évidemment de la Nuit des Fous, parce que c'est une soirée un peu spéciale qui me tient beaucoup à cœur, je vais vous dire pourquoi. Donc la Nuit de l'Orgue, traditionnellement, c'est un moment clé du festival, c'est comme le ciné-concert, c'est un moment qui a beaucoup de succès, parce que c'est 2 heures de concert, c'est un cadre un peu plus informel, c'est le dimanche soir à 21h. Et là, on l'a appelé la nuit des fous, parce qu'en fait, c'est un peu différent d'un concert. En fait, l'histoire est la suivante. Je vous la raconte, elle est assez savoureuse. Il y a quelques mois, une ethnologue que je connaissais, Marie Balthazar, vient me voir et elle me dit « Ah, mais il faut absolument que je fasse quelque chose dans ce festival, parce que moi, je fais une thèse sur les organistes depuis 10 ans, et alors, votre thématique, mais c'est tout à fait le sujet de ma thèse. » Bon, bah, effectivement, il faut qu'on parle. Et elle me parle, et effectivement, tout ce qu'elle raconte, je vous raconterai pas le détail, mais c'est symboliquement très fort sur ce que peut être le monde de l'orgue, et même, je dirais, la place de ces gens-là dans le monde de la musique ou même de la société. Et donc, très rapidement, on convient qu'elle réalise des interviews d'organistes en leur posant comme première question, devinez,
L'orgue qu'il faut.
Et donc, elle va voir Jean Guillou, Thierry Esquèche, Michel Bouvard et d'autres peut-être un peu moins célèbres. Et elle stocke des heures d'entretien avec ces gens-là, avec différentes questions. En gros, comment avez-vous découvert l'orgue? Quel est votre rapport à tout ça? Et ses meilleurs moments seront diffusés lors de cette soirée, la nuit des fous, seront diffusés dans le concert lecture, on pourrait appeler ça comme ça, et on a mis autour de ça évidemment des musiques en résonance. Et franchement, moi j'ai découvert des choses magnifiques. J'ai découvert par exemple que les jeunes générations d'organistes n'ont pas comme moi découvert l'orgue grâce à la messe, mais grâce au dessin animé. Alors je fais un petit quiz, dans quel dessin animé ont-ils découvert l'orgue il y a 20 ans?
Dans Fantasia quelque chose?
Alors il y en a dans Fantasia, et donnez-moi un deuxième exemple de Walt Disney dont le générique contient la pièce la plus célèbre du répertoire d'orgue. Alors c'est la fameuse toccata en ré mineur de Bach qui est le générique de Il était une fois l'homme.
Ah oui, mais c'est pas Walt Disney. Oui, je fais partie de cette génération qui a découvert un peu l'histoire. Effectivement, le générique, c'était la toccata de Bach jouée à l'orgue, à tel point que quand on en parlait entre nous, on entendait ça, on disait « Ah, c'est la musique d'Il était une fois l'homme ». Et quelqu'un disait « Mais non, c'est la musique de la toccata, je ne sais pas. Mais c'est qui Jean-Sébastien Bach ?»
C'est qui la toccata? Voilà.
Et ça fait partie de ses découvertes. Puis bon, après, évidemment, autre...
Il sera où ce concert?
À Saint-Sernin.
À Saint-Sernin.
À la basilique. Et alors, évidemment, il y a des choses inénarrables, comme par exemple Jean-Baptiste Dupont qui raconte ses cauchemars d'organiste. Alors ça, je vous passe le détail, mais il faut vraiment venir écouter ça. Ou alors Michel Bouvard qui raconte une anecdote d'un moment donné où quelqu'un a eu l'idée de coiffer certains tuyaux d'orgue de capote. Alors je vous laisse imaginer le son que produit un tuyau d'orgue recouvert de capote.
Visuellement aussi, ça devait être quelque chose.
Alors, c'est vraiment une soirée, moi j'appelle ça, c'est l'intimité des organistes, c'est vraiment l'arrière-boutique, l'arrière-cuisine, et puis on a habillé ça avec 2-3 musiques, moi je jouerai Tubular Bells de Michael Field à 4 mains avec Virgile Monin, il y aura Volumina de Ligeti qui est une espèce de d'ovni dans le répertoire, parce que ça commence par un cluster, alors pour ceux qui ne savent pas un cluster, vous imaginez l'organiste qui s'assoit sur les claviers en ayant tiré tous les jeux, donc ça fait déjà un espèce de bruit qui doit dépasser 150 décibels, et puis après ça se calme un peu, mais il y aura quelques événements musicaux un peu particuliers.
Voilà, alors il y a des sous-thématiques aussi au festival, il y a les concerts Jeunes Talents par exemple.
Alors les Jeunes Talents, ce sont plusieurs organistes qui sont cette année tous des lauréats de concours internationaux, donc voilà, on a un certain niveau qualitatif pour parler
d'un certain niveau d'exigence.
D'une manière que je n'aime pas toujours, mais enfin ce sont effectivement des jeunes interprètes qui ont tout ce qu'il faut pour plaire et qui feront différents concerts le soir à 18h30, c'est notre créneau pour les Jeunes Talents. Et donc j'invite évidemment le public à découvrir tous ces jeunes talents de demain.
Et puis alors, ce n'est pas qu'à Toulouse, ça s'appelle Toulouse des Orgues, mais ce n'est pas qu'à Toulouse. Vous allez aussi jouer en région. Le lundi 9 octobre, il y aura plusieurs concerts à Limoux, à Perpignan, à Lille-sur-Tête et à Vincennes. Je ne sais pas où c'est d'ailleurs. C'est en Pays catalan, je suppose, également.
Absolument, c'est voilà. Juste derrière.
Vous avez beaucoup insisté sur le Pays catalan, semble-t-il.
Ah, c'est l'Occitanie, voyons.
Certes.
Alors non.
Même les Catalans sont dans l'Occitanie.
Les Catalans du Nord. Les journées régions sont une grande tradition du festival depuis très très longtemps, bien avant que j'arrive ici en 2014. C'est une manière de faire découvrir en fait au public la richesse du patrimoine d'orgue d'Occitanie.
De notre région.
Parce que Toulouse est particulièrement bien dotée, mais pas que.
C'est vrai. Et puis alors, il y a une autre formule, il y a les concerts orgue en famille.
Oui, alors...
On parlait du côté apaisant là, de l'orgue. On est dedans, là, je pense.
Voilà, le carnaval des animaux. En fait, chaque année, on essaye de proposer un spectacle qui s'adresse un peu au jeune public. Et évidemment, jeune public dit les plus jeunes viennent généralement avec leurs parents. C'est largement encouragé. Et donc, cette année, nous avons un très, très joli spectacle, une transcription à l'orgue du carnaval des animaux, mais avec les animaux qui s'animent visuellement sur le mur de l'église Saint-Nicolas, avec quelqu'un qui fait vraiment des dessins en temps réel qui sont très, très beaux.
Oui, John Virtue. Breitner, un Suisse.
Exactement.
Que vous devez connaître un peu, sans doute, qui fait des dessins en direct. Alors, donc, il y aura Ursula Heim, Suissesse aussi. Et il y aura la comédienne Laetitia Bosse, que je connais, qui est une excellente comédienne en narratrice. C'est juste à côté de Radio Présence, à l'église Saint-Nicolas, le samedi 14 octobre à 15h. Et bien, puisqu'on vient d'en parler, je vous propose qu'on écoute un extrait du Carnaval des animaux joué à l'orgue, le final. On écoute ça tout de suite. Le final du Carnaval des animaux à l'orgue, donc œuvre qui sera présentée dans le cadre du Festival Toulouse des Orgues le samedi 14 octobre à 15h à l'église Saint-Nicolas. Il y a aussi une grosse tête d'affiche cette année au Festival Toulouse des Orgues, Wayne Marshall.
Oui, c'est une surprise parce que probablement vous le connaissez tous oui. Sous sa casquette de chef d'orchestre. Il est venu avec beaucoup de succès, diriger plusieurs fois l'orchestre du Capitole. Mais peut-être pas tout le monde sait qu'il est également un organiste virtuose qui a tout à fait une carrière d'organiste.
Et un improvisateur.
Absolument. Ouais. Et c'est à ce titre-là qu'on l'invite samedi soir, donc le 14, pour jouer à Saint-Sernin. Donc je lui ai dit, qu'est-ce qui vous intéresserait? Nous avons beaucoup de belles orgues à Toulouse. Il y a la Dalbad qui est très bien. Ah Saint-Sernin, il n'y a pas de discussion.
Donc, le cavalier-école de Saint-Sernin. Voilà.
Il voulait vraiment jouer sur ce grand instrument. Et donc, il m'a proposé une œuvre de Marcel Dupré, alors qui n'est pas tant joué que ça, mais qui est une œuvre assez impressionnante, la Symphonie Passion. Donc, différentes étapes de la vie du Christ. Mais alors, ce qui est très étonnant dans cette œuvre, c'est que Marcel Dupré montre tout à fait son héritage d'organiste d'église, mais il a improvisé ça sur l'orgue du Wanamaker Hall, qui est un orgue construit dans une sorte de galerie Lafayette à Philadelphie. Un orgue gigantesque, un des plus grands orgues du monde. Et que le propriétaire a fait installer sur une trentaine d'années, dans les années 20, comme ça, et Dupré a improvisé ça là-bas. Donc, je trouve assez amusant d'imaginer qu'il fait référence à la musique liturgique dans ce qui est finalement un magasin qui vend des produits. Et donc, cette œuvre est devenue une œuvre assez emblématique du répertoire du XXe siècle. Donc ça, c'est la première partie du récital de Wayne. Et après, deuxième partie, improvisation, voilà. Carte blanche. Voilà, il va s'éclater sur le grand instrument.
Mais il a rajouté aussi la veille.
Il est mis à contribution.
Avec l'Orchestre National du Capitole.
Voilà, alors, comme il joue avec l'Orchestre du Capitole, tout le monde me demande, mais alors, il joue sur quel orgue?
C'est une bonne question.
Alors, je démine tout à fait les gens qui ont déjà sorti leur Kalachnikov pour me placer en ligne de mire. Nous n'avons toujours pas d'orgue à tuyaux à la Halograin et nous n'avons toujours pas la possibilité d'y mettre un instrument de concert. Donc, il n'y a pas 36 solutions et la seule qui soit viable aujourd'hui, c'est d'utiliser un instrument numérique, un faux orgue, moi j'appelle ça l'ersatz, le low cost, la margarine de l'orgue, mais malgré tout,
l'effet est là quand même.
Pardon ?
L'effet est là, à l'Halograin quand même.
Oui, et puis ce qui est beau, c'est la présence de l'orchestre. Après, il est vrai que l'orgue, ma foi, n'a pas les sonorités que nous, organistes, aimerions avoir. Mais bon, alors, nous avons un projet d'auditorium à Toulouse.
Oui.
Béni soit la municipalité si elle va
avec
au bout
orgue,
de ce projet.
Avec orgue, cette fois-ci.
Avec orgue.
Comme la Philharmonie de Paris. Hein.
Nos élus ont été sensibilisés sur cette question-là et l'orgue fait partie du projet. Donc, nous attendrons simplement quelques années, si Dieu le veut, que ce projet prenne corps.
Et qu'il aboutisse. Donc, le concert de l'Orchestre National du Capitole avec Wayne Marshall. C'est le vendredi 13 octobre à 20h à la Halle aux Grains. Au programme, il y a la symphonie avec orgue de Camille Saint-Saëns, la 6e symphonie de Charles-Marie Widor et la toccata en ré mineur de Jean-Sébastien Bach, transcription des Léopold Stokowski. Camille Saint-Saëns, on a écouté déjà le Carnaval des animaux, ça nous permet de rappeler que c'était aussi un très grand organiste, Saint-Saëns.
Oui, absolument. D'abord, un pianiste génial qui improvisait divinement. On a des enregistrements de lui sur piano à rouleau. Et après, il était organiste à la Madeleine à Paris.
Voilà, alors je vous propose qu'on écoute quelques mesure de sa symphonie avec orgue, c'est le deuxième mouvement, Maestoso. De la symphonie avec orgue de Camille Saint-Saëns, le deuxième mouvement qui donc sera joué lors du concert que donneront l'Orchestre National du Capitole et Wayne Marshall le vendredi 13 octobre à 20h à la Halle aux Grains. Je vais refermer la parenthèse Toulouse des Orgues, pas complètement tout à fait, parce que parallèlement au Festival Toulouse des Orgues se tient également la 12e édition du concours Xavier Darras. Yves Rechsteiner, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cet événement, qui en sont les participants, où et comment se déroulent les épreuves?
Alors, effectivement, le concours Xavier Darras se déroule maintenant tous les 3 ans à Toulouse. C'est une sélection de jeunes artistes qui viennent du monde entier. Nous en sélectionnons sur écoute anonyme 12, qui sont donc venus cette semaine à Toulouse se présenter et jouer une moitié de leur programme qui est libre sur l'instrument de leur choix. Nous leur laissons 5 orgues au choix, donc ils peuvent choisir l'instrument qui convient à la musique qu'ils ont envie de jouer. C'est déjà un peu différent du concours classique où chacun joue la même pièce 40 fois de suite. Et donc, il y a eu une demi-finale à l'issue de laquelle 4 candidats ont été sélectionnés pour jouer à la finale qui aura donc lieu ce samedi, le 7. Et ce sont donc 4 candidats qui joueront sur différents lieux à 10h à la Dalbad, à 11h30 à Saint-Cernin, à 14h encore à Saint-Cernin et à 15h aux Augustins. Donc, vous verrez du coup des programmes à la fois symphoniques avec pas mal de transcriptions, des programmes baroques également aux Augustins.
Il faut vraiment en profiter pour aller découvrir ces jeunes organistes et puis les lieux aussi, les orgues sur lesquels ils jouent, bien entendu. On passe maintenant à un autre grand moment de la semaine, le premier concert de la saison des grands interprètes, qui décidément porte bien son nom, puisqu'on va pouvoir y entendre Martha Argerich avec l'Orchestre National de France, dirigé par Emmanuel Krivine. C'est ce samedi à 20h à la Halle aux Grains. Au programme, les variations pour orchestre sur un thème de Paganini de Boris Blacher, Scheherazade, la suite symphonique opus 35 de Rimsky-Korsakov et le sublime concerto en sol majeur de Maurice Ravel. Bien sûr, c'est cette dernière œuvre que va jouer Martha Argerich avec l'Orchestre National de France. On ne présente plus la pianiste argentine, merveilleuse artiste pianiste qui compte parmi les plus grands pianistes vivants, et même je crois qu'on peut le dire parmi les plus grands des 50 dernières années. Elle est souvent venue jouer à Toulouse et c'est vraiment une chance de pouvoir l'entendre encore une fois ce samedi, interpréter ce qui est sans doute son œuvre favorite, en tout cas c'est ce qu'elle aime à dire. Elle l'a joué je ne sais combien de fois depuis la fin des années 60. Chers amis chroniqueurs, Martha Argerich et le concerto en sol de Ravel, qu'est-ce que ça vous inspire, Serge Krzyzewski?
Ben une œuvre fétiche pour Martha Argerich. Souvent les interprètes ont une affection particulière pour une œuvre qui tout au long de leur vie est travaillée, retravaillée, revue, revisitée et qui évolue, contrairement à d'autres qui sont juste abordées une fois ou deux. Bon, c'est aussi l'occasion pour elle de retrouver Emmanuel Krivine, hein. Bon, c'est en ce moment les prises de fonction à la tête de l'Orchestre National de France. Bon, Martha Argerich, on essaye toujours de ne pas la manquer quand elle vient à Toulouse, on a cette chance. Elle joue régulièrement aussi à deux pianos ou quatre mains avec Nelson Frère, son comparse sud-américain également.
Alors, et avec Kovacevic.
Avec son ex-mari,
voilà,
aussi, Stéphane Kovacevic.
Absolument.
Ils ont joué l'an dernier lors de la saison des grands interprètes.
Quel concert.
Oui, on a eu aussi un concerto de Beethoven, mais le concerto en sol, c'est une sorte comme ça de point d'ancrage pour elle.
Quelle est votre version favorite, vous, du concerto en sol? Quel pianiste vous émeut le plus?
C'est très très difficile à dire parce que
il y en a eu, je ne sais combien aussi là. Hein,
mais... Oui, c'est un concerto qui prend, je dirais, à chaque fois un visage un peu différent avec le pianiste. Moi, j'ai tendance à pas forcément faire un choix spécialement qui en éliminerait.
Ben moi, c'est une musique qui me fait autant plaisir à entendre que l'opéra. Avec la même difficulté, il n'y a pas de version idéale. Parce que c'est comme les opéras. Moi, je n'arrive pas à trouver la version. Il m'en faut toujours 4 ou 5, minimum. Et là, ben, le concerto en sol, ben moi, je garde Argerich pour le mouvement lent. Parce que c'est ça qui m'a permis de comprendre ce qu'un pianiste pouvait faire comme trucs qui sont géniaux. C'est cette attaque, juste un petit peu après la note, qu'on l'attende. Et ça crée une émotion, mais quelque chose de sidérant. Et moi, je sais que bon, c'est Martha Argerich dans le mouvement lent. Les autres, je sais pas. J'aime bien changer. J'aime aussi Hélène Grimaud, par exemple. Alors ça, je sais. C'est pas forcément à celle qu'on attend, mais il y a évidemment.
Quelques versions célèbres, évidemment, enregistrées. Oui, alors il y a celle de Samson François.
François, c'est avec celle-là que je l'ai découvert.
Aussi,
donc
qui est
bon.
Une très belle version. Christian Zimmermann.
Ah, Christian Zimmermann, oui, tout à fait. Il y a la version.
Herbie Hancock.
Ça, c'est autre chose.
Ah, oui, si.
Il y a la version de Michelangeli, qui fut d'ailleurs un des maîtres de Martha Argerich, avec Célibi Dach, qui est resté célèbre aussi.
Bon, mais c'est vraiment un concerto qu'on peut écouter et réécouter, on n'entend pas la même chose chaque fois. C'est tellement riche.
Une mention particulière, alors on a la chance d'avoir la vidéo, c'est Léonard Bernstein qui joue et dirige avec l'Orchestre National de France. C'est absolument fabuleux parce qu'il est en pleine forme, il maîtrise l'orchestre. On sent que l'orchestre connaît très très bien cette œuvre et donc il réagit immédiatement à ce que Bernstein propose du clavier et c'est impressionnant à regarder et à entendre.
Alors on va écouter maintenant évidemment un extrait de ce merveilleux concerto en sol majeur de Maurice Ravel interprété par Martha Argerich. Elle l'a joué et enregistré plusieurs fois.
Avec Dutoit, non?
Alors oui, avec son ex-mari, Charles Dutoit.
Mais il y a
je pense qu'une des premières versions enregistrées, la première qu'elle a enregistrée en tout cas, peut-être pas la première qu'elle a jouée, mais en tout cas la première qu'elle a enregistrée, c'est avec Claudio Abbado à la fin des années 60. Donc c'est la toute jeune Martha Argerich que nous allons écouter maintenant. Et c'est pas le deuxième mouvement, je suis désolé pour vous, Berstock. C'est le troisième, le presto. Thank you. Voilà le début du troisième mouvement presto du concerto en sol de Maurice Ravel, interprété par Martha Argerich sous la direction de Claudio Abbado. Il s'agit d'un enregistrement qui date de la fin des années 60, époque à laquelle elle était encore une toute jeune pianiste qui commençait à le jouer en concert, je l'ai dit tout à l'heure. Serge Krichevski, un petit commentaire sur cette interprétation et éventuellement une comparaison avec des prestations plus récentes que vous auriez écoutées de Martha Argerich.
Moi, j'aime beaucoup. On en parlait à l'instant avec Hubert. Je trouve que c'est très maîtrisé. Enfin, il y a souvent, parfois, Martha Argerich nous habitue à des tempos très très rapide, parfois excessivement rapide. Là, moi je trouve que pour ce final, c'est peut-être parce que mon expérience de l'avoir joué avec beaucoup de pianistes aussi à l'Orchestre du Capitole m'a fait entendre parfois des choses qui débordent complètement, vraiment complètement incontrôlées. Là, je trouve que c'est rapide certes, mais c'est cadré, voilà.
C'est maîtrisé.
Pour ce mouvement-là. Mais je pense qu'Hubert était un peu...
J'avais en tête, mais alors c'est toujours pareil, c'est comme quand on se rappelle une version, ou quelque chose. Il me semble qu'il y a une version, je ne sais plus laquelle, c'est un petit peu moins rapide et je déguste plus.
Oui.
Parce qu'il y a toujours ces problèmes avec Margaret, quand elle va vite, on ne déguste pas, on est bluffé, mais on ne déguste
pas. Ça passe tellement vite, on n'a pas le temps.
Voilà. Alors par contre, la perfection, oui, c'est...
C'est une personne qui, de toute façon, privilégie beaucoup l'élan musical,
le souffle.
Oui. Et c'est vrai que parfois, c'est bon.
Des choses à l'orchestre qu'on n'a pas le temps d'entendre à cette vitesse-là.
Aller l'écouter à la Lohengrin ce samedi. Un grand merci à tous les quatre pour votre venue et tous ces échanges passionnants. Serge Krichevski, Robert Pénavert et Hubert Stocklin sont appelés à revenir souvent dans cette émission. Quant à vous, Yves Rechsteiner, nous allons vous souhaiter un très bon festival Toulouse des Ors qui, je le rappelle, se poursuit jusqu'au dimanche 15 octobre avec encore des dizaines de concerts et événements souvent très originaux. Allez les écouter et découvrez en même temps le superbe patrimoine d'orgue de Toulouse et de sa région. Vous pouvez consulter tout le programme du festival sur le site www.toulouse-les-orgue.org. Je rappelle qu'il reste une représentation de Tiefland, l'opéra d'Eugen d'Albert au Théâtre du Capitole, ce dimanche 8 octobre à 15h. Là aussi, un spectacle à ne pas rater concernant les grands interprètes. Premier concert de la saison ce samedi à 20h à la Lohengrin avec Martha Argerich et l'Orchestre National de France dirigé par Emmanuel Krivine. La programmation de la saison complète est disponible sur le site www.grandsinterprètes.com. Et puis je voulais signaler également à ceux qui nous écoutent dans le Tarn ou à côté que l'Orchestre National du Capitole donne un concert ce samedi à 21h au Théâtre Municipal de Castres sous la direction de Maxime Emelianichev et avec le pianiste Richard Good. Au programme, deux œuvres de Mendelssohn et le 18e concerto pour piano de Mozart. La régie technique de cette émission était assurée par Christophe Aubry. Vous pouvez réécouter ce numéro en podcast en le téléchargeant sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci encore de votre fidélité et très bonne semaine musicale à tous.